Si l'on regarde ne serait-ce que les momies des pharaons Séti Ier, Thoutmôsis II ou Ramsès, l'on n'a aucun doute sur le caractère, en tout cas sur leurs caractéristiques physiques caucasiennes. L'africanisation de l'Égypte serait intervenue au 7e siècle après Jésus-Christ, avec l'expansion de l'islam et non pas dans l'Antiquité. Ces propos ne sont pas de moi, tu as bien entendu, ce sont des propos qui émanent d'auteurs, de blogueurs, qui considèrent que un certain type de théorie, un certain type d'apport à l'histoire, à l'historiographie, ne devrait pas être. Ce sont des propos qui remettent en cause les travaux du chercheur indépendant Femi Krasniski, en tout cas à la faveur de la sortie de son film La Grande Pyramide K. Et sachez que cela n'a pas commencé au 21e siècle. En effet, il y a quelques années, en 2019, je suis tombé sur un blog qui remettait en cause la négritude des Égyptiens, avec ce titre fort évocateur. J'ouvre les guillemets. Non, les Égyptiens n'étaient pas noirs. Et ce n'était pas les seuls points que ce blog remettait en cause, notamment la navigation, l'architecture, bref, le fait que l'Afrique ait pu connaître une promotion par le passé. Quand je pense qu'on a pris 300 ans, voire plus, de batailles intellectuelles acharnées pour dire si les anciens Égyptiens étaient noirs ou blancs, que de temps gâché en vaines conjectures. En tout cas, je suis en droit de me demander en quoi le fait d'être noir ou blanc apporte au débat quand il s'agit de la promotion de la vérité historique. Rien, cela va sans dire. Si ce n'est qu'au cours de ces siècles derniers, certains ont pris des raccourcis, des passe-droits pseudo-scientifiques dans le sens de leurs intérêts idéologiques. C'est ce qui me fait dire que Cheikh Anta Diop n'est pas mort. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast Le Guide du Petit Panafricain, ton manuel audio dédié à l'histoire, la culture, la politique et la géopolitique du grand continent sous le prisme du panafricanisme. Dans ce podcast, eh bien, on valorise ce que le grand continent a de meilleur. C'est Arleno qui te parle, commandant de bord de cette mission. Si tu viens de nous rejoindre, sois la bienvenue. Ta présence et ton soutien nous donnent la force d'avancer. Un grand merci à toi. N'hésite donc pas à commenter le podcast pour en améliorer le contenu. Nous sommes disponibles sur Twitter, Instagram et même TikTok. Bienvenue en 2023 et l'Afrique, c'est toujours chic. Avant d'embarquer, je te propose un petit apéritif depuis le salon VIP. Eh oui, ici, on voyage en business. La semaine dernière à Lyon, en France, a eu lieu une conférence organisée par les jeunes membres de la Ligue panafricaine Umoja et une association partenaire du nom de Génération Lumière. Cette conférence avait pour objet l'héritage de Cheikh Anta Diop. Ce fut donc l'occasion de revenir sur le parcours et les influences de cet auteur, à qui nous avons déjà dédié une série d'épisodes, notamment les épisodes 15 à 17 sur l'écologie et le capital énergétique de l'Afrique. Mais ce qui a fait connaître et populariser Cheikh Anta Diop, ce sont bien évidemment ses travaux sur l'origine nègre de la civilisation égyptienne. J'espère que tu as pu savourer ce petit apéritif depuis ton salon VIP. Allez, nous embarquons. Selon toi, en tout cas, tu penses que selon toi, l'Égypte des pharaons est une construction de blancs à peau noire. J'en parle lors de ce podcast car je ne veux plus jamais revenir sur cette question parce que je n'aime pas enfoncer les portes ouvertes. En tout cas, ce n'est pas la spécialité de la maison. C'est donc par souci de pédagogie que je reprends ce point une dernière fois. Qui étaient les Égyptiens? Les Égyptiens, ou du moins ceux qu'on a appelés comme tels, en dépit des représentations qu'ils ont fait d'eux-mêmes, ont toujours été dépeints comme des individus autres qu'africains, géographiquement parlant. Le terme kamito-sémitique afro-asiatique te parle certainement. Sinon, sache que ce terme a longtemps été évoqué dans les sphères scientifiques occidentales. Il faut savoir qu'au balbutiement de la science en Occident, les civilisations ont été réparties suivant la description biblique du livre de la Genèse. Noé et ses fils notamment, Sem, Japhet et Cham. Ces derniers ont servi de référence à des intellectuels pour référencer les peuples suivant leur origine. C'est étrange, non? Ainsi, Japhet était l'ancêtre des nations européennes vivant au nord de la Méditerranée, Sem l'ancêtre des populations judaïques et Cham l'ancêtre des populations au sud de la Méditerranée, donc des populations mélanodermes. L'auteur de ce podcast, votre dévoué serviteur, a longtemps cru que l'Égypte, c'était une civilisation japhétique ou du moins sémitique qui était à l'origine de l'explosion du génie humain. Ce qui, au demeurant, pourrait s'expliquer tant Hollywood et les livres d'histoire s'étant tous lancés dans un brown bashing excessif. Aujourd'hui encore, les descendants de ceux qui ont sciemment falsifié l'histoire, commettant ainsi un crime contre l'humanité, comme le disait Cheikh Anta Diop, continuent de transmettre, et souvent même de bonne foi, des contre-vérités à la limite d'un révisionnisme éhonté. C'est dire le travail de sape accompli par ces mêmes structures de domination que j'évoque dans tous les podcasts. Ainsi, sur un blog pris au hasard sur la toile, on peut lire. J'ouvre les guillemets. En octobre dernier, en pleine séance sur l'art des hiéroglyphes, un jeune homme au style savamment négligé prend la parole. Les Égyptiens étaient noirs. Pourquoi ne le dites-vous pas? L'égyptologue, après un regard ahuri derrière ses lunettes rondes, finira entre deux rires nerveux par conseiller à cet étudiant de relire l'ensemble des travaux effectués par ses confrères français et américains en la matière et conclura ironiquement. Jeune homme, il faut arrêter de lire Cheikh Anta Diop. Maintenant que le décor est planté, on peut décoller. Vous êtes prié d'attacher vos ceintures. Lors de la conférence de Niamey en 1884, le professeur Cheikh Anta Diop avait insisté sur la connaissance directe. Il finira ce conseil par cette phrase: on vous nie en tant qu'être moral, on vous nie en tant qu'être culturel, on ferme les yeux et on ne voit pas les évidences. On vous apporte l'égalité abstraite, mais l'idée que les nègres aient pu connaître une promotion par le passé leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Ladies and gentlemen, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous allons entrer dans des zones de turbulence. Dès lors, veillez à garder vos ceintures bien attachées. Première vraie fausse théorie. Les Égyptiens sont des noirs à la peau blanche. L'idée d'une civilisation blanche à la peau noire a longtemps été soutenue comme thèse valable dans les cénacles dits scientifiques et même jusque dans les salons les plus feutrés. En effet, l'égyptologie moderne a longtemps fourni un effort de négation sur l'origine nègre des anciens Égyptiens. Et pourtant, au XVIIIe siècle, un savant français du nom de Volney a visité l'Égypte sous Napoléon Bonaparte, soit plusieurs siècles après Hérodote, connu comme étant le père de l'historiographie occidentale. Voici ce que disait Volney dans son testament. Cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage de la parole. Fin de citation. Je rappelle à toute fin utile que Volney a reçu de son vivant l'honneur d'être décoré par l'impératrice Catherine II de Russie pour son œuvre « Voyage en Égypte » et en Syrie, œuvre dans laquelle il cite ce passage. L'ignorance est donc un danger que tout être doit éviter. Dès lors, il n'y a rien de plus dangereux qu'une ignorance sincère. C'est pourquoi, si l'Égypte est une civilisation autre que nègre, on est en droit de se poser cette question. Comment se fait-il que ceux qui proclament, en tout cas qui assurent que c'est une civilisation occidentale ou orientale, comment se fait-il que ces orientaux ont installé, en tout cas eurent installé le centre du rayonnement de leur civilisation, qu'il soit intellectuel, technique, scientifique, en dehors de leur berceau, c'est-à-dire en dehors de l'Orient ou de l'Occident, ni en France, ni en Allemagne, ni en Angleterre, en Afrique? Oui, car l'Égypte est en Afrique. Géographiquement parlant, l'Égypte est en Afrique et pas ailleurs. Donc comment ça se fait qu'ils aient installé le centre de leur rayonnement ailleurs pour ensuite se retirer et laisser le relais à à, disons, des nègres. C'est assez étrange. Mais bon, passons. Deuxième vraie fausse théorie. L'Égypte est certes située en Afrique, mais ce qui compte, c'est la culture. Ok. Sur cette question également, le colloque du Caire, qui s'est tenu du 28 janvier au 3 février 1974 et qui a rassemblé tous les intellectuels, en tout cas parmi les pointures du monde à cette époque, a tranché. Je vous lis ci-dessous un extrait du dit colloque tiré de l'histoire générale de l'Afrique, dont les travaux ont été supervisés par l'UNESCO, qui était dirigée alors par le docteur Amadou Matambo. Je lis avec attention parce que les phrases, en tout cas cette phrase est assez carabinière. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'ont pas eu, malgré le document préparatoire de l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Fin de citation. Si le sérieux des interventions et des thèses du docteur Cheikh Anta Diop et de son disciple Théophile Obenga portaient sur, en tout cas, l'origine nègre, en tout cas africaine, de l'Égypte pharaonique, je pense que la cause est entendue. La suite, en tout cas, nous la connaissons tous. Ce colloque a tranché. J'estime à bon droit que, il n'y a plus à revenir sur la question. Car Cheikh Anta Diop et Obenga ont remporté ce jour-là la bataille scientifique et je viens de citer un extrait du rapport, auquel, je rappelle, ils n'ont pas participé. Je comprends donc difficilement comment une personne, à savoir, en tout cas ce professeur derrière ses lunettes rondes, j'ai du mal à comprendre comment il peut tourner, en tout cas comment il puisse tourner en dérision un jeune auditeur et en plus moquer son accoutrement. Ce n'est ni plus ni moins que de l'inélégance de sa part. En effet, demander à un auditeur de lire les travaux de confrères français et américains est une façon d'éluder le débat qui aurait pu naître à la suite de l'interpellation de ce jeune homme. Cela aurait pu susciter certainement un intérêt pour les thèses du professeur Cheikh Anta Diop et n'aurait certainement pas été du goût de cet intellectuel. Transmettre des contes vérités pour un intellectuel est une faute intellectuelle, mais la transmettre en toute connaissance de cause est un crime contre l'humanité. Ces faits que je viens de citer à eux seuls suffisent à mettre hors d'état de nuire les idéologues, mais comme vous le savez toujours, la bêtise ne cesse d'insister. Dès lors, je me dois de rajouter une certaine petite couche. Nous avons souhaité, en tout cas j'ai souhaité présenter avec plusieurs dynasties de décalage quelques représentants de la classe dirigeante et spirituelle de l'Égypte pharaonique à l'époque. Vu que nous sommes sur un podcast, vous n'aurez pas droit aux images. Je vous invite donc à faire une recherche Wikipédia pour vous approprier en tout cas l'image de ces personnages que je vais citer. Alors, lorsqu'on prend la représentation masculine du dieu Amon, communément connu sous le nom du buste d'Amon, on voit très clairement la pigmentation de cette divinité présente dans le temple de la vallée des rois en Égypte. Néferti Abet, la fille du pharaon Khoufou de Khéops, en tout cas la reine Néfertari, 1296 avant Jésus-Christ, Mentouhotep de la 11e dynastie, moins 2160 avant Jésus-Christ, Adère el Abari à Thèbes, en Égypte. Enfin, on peut le prendre pêle-mêle. Hein. On découvrira avec stupéfaction à quoi pouvaient ressembler les Égyptiens de la période pharaonique, pratiquement toute période confondue. Et mon coup de cœur, c'est la représentation de celui qui est présenté comme étant le premier pharaon de l'Égypte, Narmer. Il n'y a pas photo, hein. Je pense qu'à ce stade-là, la cause est entendue. On va donc passer à la deuxième étape. J'espère en tout cas que vous êtes bien attachés. Toujours dans cette même dynamique, l'auteur du blog soulève une question très intéressante. Il moque le fait que les Africains, en tout cas qu'il aurait lu quelque part, que les Africains auraient découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, ou que les Africains auraient découvert les mathématiques, et que les grands traités de médecine moderne, d'architecture, auraient été volés par les Grecs, évidemment. Bon, pour lui répondre, je pense que nous allons faire au mieux en prenant des références pour éviter qu'on me fasse, comme toujours, des procès d'intention. Il faut savoir une chose, le monde impérialiste, dans sa globalité, a soumis le reste du monde par la force de ses canons et non de sa pensée. Tenez-le-vous pour dit. Pour preuve, avant son entrée en contact avec les arabo-musulmans, notamment, il est mort au 8e siècle, existe-t-il un navigateur européen célèbre, je veux dire, qui n'est pas grec ou romain? Je ne pense pas. On n'a pas simplement parce qu'il n'en existait pas à l'époque, pour la simple bonne raison que celui qui fait office de marin hors pair est un certain Cristobal Colomb, ou Christophe Colomb de Gênes, un capitaine en perte de notoriété qui s'est échoué par le plus grand des hasards sur les côtes des populations autochtones d'Amérique, en cherchant la route de l'Inde, d'où il baptisera d'ailleurs les populations autochtones d'Indiennes. C'est dire le niveau de connaissance en navigation que détenait en tout cas ceux qui prétendent avoir inventé la navigation. La suite, nous la connaissons tous. Il s'agit de l'un des plus grands génocides de l'histoire de l'humanité. Aussi, pouvons-nous pousser la polémique jusqu'aux portes du ridicule ou simplement faire parler la documentation? Troisième vraie fausse théorie, la prétendue découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Je vous invite à faire une recherche sur Wikipédia et vous tapez simplement Olmec, Olmeque. Et vous verrez que, en tout cas, vous verrez la représentation de ce qui était un Olmec 2500 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes encore très loin de 1492. Et il y a une représentation de on va dire, cette image des Olmecs au musée d'histoire naturelle. Donc, vous pouvez aussi le visiter. Donc, il est évident que si les Africains n'ont pas pu découvrir l'Amérique, Colomb le pouvait encore moins. Rien qu'à voir la tête des Olmecs, on devine aisément à quel type de population ils appartiennent. En effet, l'Amérique précolombienne, en tout cas avant l'arrivée de Christophe Colomb dans cette Amérique-là, les populations africaines ont certainement eu un effet sur la pigmentation et aussi le phénotype de ces populations. Rien qu'à voir la tête des populations Olmèques. Quatrième vraie fausse théorie. La prétendue invention par les Grecs des mathématiques. Pythagore, Thalès sont les pères de la géométrie occidentale, donc des mathématiques. D'après les enseignements dispensés par les livres de sciences. Du moins, c'est ce que nous apprennent tous les livres de mathématiques rédigés par l'Occident. C'est ce qui est enseigné lors même qu'il n'existe aucune pyramide en Grèce, sachant que le secret de leur construction est encore un mystère aujourd'hui au XXIe siècle. Pourquoi le papyrus dit de Rhind n'a pas été découvert, du moins en Grèce, mais plutôt en Égypte, sachant que ce papyrus est la copie d'un traité de mathématiques remontant à l'Ancien Empire, c'est-à-dire on est à plus de 2500 avant Jésus-Christ. Quant au papyrus dit de Smith, il s'agit d'un traité de chirurgie présentant plus de 60 cas d'une complexité et d'un niveau très élevé à une époque où une simple fièvre pouvait emporter des centaines de personnes en Europe. Et enfin, cinquième vraie fausse théorie, la prétendue invention par les Africains de l'architecture. S'il est vrai que les Égyptiens dormaient dans des palaces et ont construit plusieurs pyramides et édifices religieux parmi les plus somptueux, dont celui de Karnak, qui est le plus massif et le plus prestigieux, au point où il peut contenir 5 fois Notre-Dame de Paris, nous envisagerons donc alors ce qu'est l'architecture. Il faut revoir en tout cas notre copie en ce qui concerne la définition de l'architecture. Enfin, il n'est jamais venu à l'esprit des Grecs de se comparer aux Égyptiens, qu'ils vénéraient parfois même comme des dieux, au point de s'approprier leurs savoirs et connaissances. Connaissances qu'ils ont eu du mal à implémenter au début en Grèce, alors qu'en Égypte, la science florissait à l'ombre du pouvoir pharaonique, tout en étant à son service. En dépit de ces faits qui ne souffrent d'aucune contestation scientifique sérieuse, et jusqu'à ce que d'autres thèses viennent remettre, en tout cas les remettre en question, le savant Cheikh Anta Diop a reconnu que, s'il n'était pas intimement convaincu de la capacité de chaque peuple à conduire sa destinée historique, il serait déçu. Car selon lui, que ferions-nous dans ce monde? Il a reconnu plus loin que chaque peuple est capable de science et de génie, car l'humanité étant une, elle bénéficie dès lors des mêmes capacités intellectuelles. Du coup, exit tous les racistes et les racialistes qui ont voulu transmettre leur fantasme à Cheikh Anta Diop, l'accusant de racisme à rebours contre les Blancs. C'est n'importe quoi. C'est donc par ces propos que Cheikh Anta Diop bat ainsi en brèche les penseurs négrophobes et réactionnaires tels que Hegel, Gobineau, Voltaire, Rosenberg, Jules Ferry, Montesquieu et j'en passe. Tous ceux qui, faute d'arguments sérieux, trouvent refuge dans un prétendu racisme à rebours des Africains alors qu'ils ont eux-mêmes posé le postulat d'une race supérieure en raison d'attributs génétiques qualifiés d'ariens. Ce qui est une incongruité qui relève plus de la pathologie que de la science. Je dis donc ceci et soutiens cette théorie. Tous ces peuples ont apporté à l'histoire de l'humanité, qu'ils soient nègres, blancs, sémites, etc. Et ce, à tous les niveaux. Mais leur origine, en tout cas l'origine, est le cœur de l'Afrique. À une époque où il n'y avait d'hommes et de femmes qu'en Afrique. Ainsi, l'essence même du racisme réside dans la négation de la capacité de chaque peuple à conduire sa destinée historique. C'est pourquoi nous rendons un vibrant hommage à Cheikh Anta Diop et rappelons que ses théories sont plus d'actualité que jamais. J'espère que jusque-là, tout va bien. Aujourd'hui, tu voyages en business. Tout est mis en œuvre pour ton confort. J'espère en tout cas que tu apprécies ton vol. Alors, abonne-toi à la page, partage, mets-y un pouce et surtout, parle-en autour de toi pour vulgariser un récit authentique sur l'Afrique et sa diaspora. Un récit authentique sur le grand continent. L'Afrique a laissé à ses enfants un héritage immense pour assurer sa puissance. L'Afrique a fait le choix de revenir sur la grande scène de l'histoire, là où s'entrecroisent les valeurs humaines partagées et les grands défis civilisationnels. Ça se passe à Paris, au Mali, en Guinée, en Guadeloupe, en Martinique. Un homme vaut un homme. Le grand continent refuse le mépris généralisé. Je suis Arlino, commandant de bord de cette mission et je m'adresse à toi. Le panafricanisme est la philosophie de notre survie. Alors prends soin de toi car nous sommes le monde.